le début de la paracha Béha. On va étudier le premier Rashi. Allez messieurs, on a déjà étudié donc le, on a déjà étudié l'année dernière le premier Rashi. Là maintenant on va l'étudier sous un autre angle. Donc on a ici le premier pasouk, Vaïdaber Hashem el Moshe. Dieu a parlé à Moshe, Behar Sinai, sur le mont Sinai, les morts en lui disant. Donc le premier détail qui saute aux yeux, c'est quoi? C'est que d'habitude dans la Torah, c'est écrit Vaïdaber Hashem el Moshe, les morts. Dieu a parlé à Moshe en lui disant, c'est tout. Peu importe où il lui a parlé. Là, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit, Dieu a parlé à Moshe sur le mont Sinaï. Comme si que les autres fois, on ne sait pas où il lui a parlé. Prends besoin de préciser, Behar Sinaï sur le mont Sinaï. Alors, avant de lire le commentaire de Rashi, qui va nous expliquer pourquoi c'est écrit Behar Sinaï, un Rashi assez long, on va d'abord faire le Pasuk Bet pour voir qu'est-ce que Dieu a dit à Moshe Rabbeinu au mont Sinaï. Donc, Pasuk Bet, en bas de la page 311. D'Aber al-Béné Israël, Dieu demande à Moshe Rabbeinu de parler aux enfants d'Israël, de Amartal et Aim, de leur dire, Kitavo ou El Haaret, lorsque vous reviendrez, parce que vous, lorsque vous viendrez, elle arrête vers la terre, parce qu'il faut savoir que les Béné Israël, actuellement, ils sont dans le désert. Donc la terre d'Israël, ils ne la connaissent pas encore. Les explorateurs, on ne les a pas encore envoyés. Donc on la connaît pas du tout, la terre d'Israël, on ne l'a même pas explorée. Donc, avant même qu'on arrive en Eretz Israël, bien longtemps avant qu'on arrive en Eretz Israël, on est tout juste après, on est quelques temps après la sortie d'Égypte. Parce que c'est vrai que la paracha Yitro, du don de la Torah, on l'a lu dans le Chumash Shemot. Nous, on l'a lu, ça fait à peu près 13 parachas. Mais il y a très peu de temps qui s'est passé entre les deux. La majorité des 40 ans vont se passer dans le Chumash Bamidbar. D'accord? Donc là, qu'est-ce qu'on dit à partir de la paracha Shlach? Donc, Kitavo ou El Haaret, Dieu dit à Moshe Rabbeinu, parle aux enfants d'Israël et dis-leur, Kitavo ou El Haaret, lorsque vous reviendrez vers la terre, Asher Ani Noten Lachem, que je suis en train de vous donner, Veshavta Haaret, Shabbat Lachem, la terre devra se reposer, un Shabbat pour Dieu. Donc c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la Shemitah. La Shemitah, c'est le Shabbat de la terre. De la même manière que nous, on se repose un jour par semaine, de la même manière, la terre doit se reposer une année sur sept. Je lis encore 2-3 versets juste pour expliquer rapidement ce que c'est la Shemitah et après on va faire Rashi. Donc Pasuk Gimel, merci beaucoup. Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech Haolam, Shehakol Nia Bidvaro.
Amen.
Donc Pasuk Gimel, page 312. Shesh Shanim Tizra Sadecha. Pendant 6 années tu devras planter ton champ. Veshesh Shanim Tizmor Karmecha. Ainsi que pendant 6 ans tu devras donc préparer, travailler ta vigne. Veshafta et Tevuata. Et Dieu nous donne la bracha que on va semer et on baisera ta chèvre, on va également récolter. Mais, ou bashana shivirit, shabbat shabbaton yel aret. La 7e année, ce sera un shabbat shabbaton, c'est-à-dire repos complet. Pour Dieu. Shabbat la chaîne, donc c'est un repos pour Dieu, un repos pour la terre. C'est-à-dire que la terre se repose et on le fait pour Dieu. Sadecha lotizra, vecharmecha lotizmor. Ni on a le droit de semer le champ pendant la 7e année, et ni on a le droit de travailler la vigne. Alors, on a pris les exemples les plus courants qui étaient à l'époque. C'est ce qu'on avait. Hein. On avait des vignes et des champs. Et c'est fiach tirecha lo tiktsor, vet nive nizirecha lo tiktsor. Maintenant, ce que nous dit le verset suivant, mais bon, on va pas trop s'arrêter dessus, c'est qu'il faut savoir qu'une terre, même si on la sème pas, de toutes les façons, pendant un an, il y aura toujours un petit peu qui va pousser. Toujours. Ouais. D'accord? Je travaille pas, je suis pas agriculteur, mais en tout cas, je sais qu'il y a toujours un peu qui pousse.
Mais les vignes, c'est plus compliqué.
Mais il y a toujours un peu qui pousse. Ouais. Toujours. C'est ce qu'on appelle en hébreu les sphirim. Aujourd'hui encore, on appelle ça les sphirim. Ça veut dire c'est ce qui pousse. C'est sauvage.
La 7e année, c'est la vigne.
La pousse spontanée. Donc le problème, c'est que ça a poussé. Donc même si la 7e année, la terre se repose, on la laisse se reposer. De toute façon, la terre va pousser. Qu'est-ce qu'on fait avec ces sphirim? On n'a pas le droit de les prendre. Alors c'est compliqué aujourd'hui. Il y a des concepts de otsar beddin. Ça veut dire que on va le donner au Beddin, on va l'abandonner, etc. C'est de la chose très compliquée. Les lois de la Shemitah, c'est de la chose très compliquée. D'ailleurs, il n'y a pas beaucoup de rabbinis qui sont spécialisés dans ça. C'est-à-dire, les mumprim, les gens qui sont experts dans la chose de Shemitah, il n'y en a pas beaucoup. Voilà. Et donc, de manière générale, Pasuk Vav, c'est sur ça que je vais m'arrêter. Vaïta Shabbat Haaretz Lachem Leochla. Donc, quand la terre va se reposer, ce sera le moment pour vous également d'en profiter. Lecha ou Leavdecha Vela Matecha. Ça sera le moment pour nous de profiter, c'est-à-dire de se reposer, nous, nos esclaves, nos servantes, Belisrecha, tous les métayers, c'est-à-dire tous les gens qui travaillaient pour nous dans la terre. C'est une année sabbatique, une année shabbatique, où on se repose. Ul Toshavra Agarim Imar, ainsi que tous les Toshavs qui habitent avec nous. Alors c'est quoi les Toshavs? Les Toshavs, c'est une définition assez particulière. C'était des non-juifs qui habitaient en Eretz Israël, qui avaient pris sur eux numéro 1 les lois Noachides et numéro 2 le système juridique hébraïque. Toute personne qui venait s'installer en Israël, qui prenait sur soi ces deux choses-là, avait la définition de Toshav. Quand il a la définition de Toshav, ça veut dire qu'on a l'obligation de subvenir à ses besoins. Du style, c'est comme j'aurais dit, les allocations familiales aujourd'hui. Si une personne ne prend pas sur soi les sept lois noachides, on n'a pas l'obligation, on le fait uniquement par respect. Mais bon, on n'a pas l'obligation légale de lui donner ce qu'il a besoin.
Et pendant un an, il fallait payer les salariés,
on ne paye plus les salariés. Hein, on met de côté. On met de côté.
Les salariés aussi.
Ah non, on ne paye plus. On ne paye plus, on se débrouille.
Il y avait un an de vacances.
C'est un an de vacances. Bon, alors quand on lit, très bien. Alors maintenant je vais revenir. Hein. Maintenant je vais revenir au premier passage.
Tous les sept ans.
Ça existe, toi, le congé sabbatique.
Il n'y a pas les vacances pendant les 7 ans.
Ah non. Non, la Shemitah, c'est pour toute l'éternité d'Israël.
C'est même oublié de l'attendre.
Ça démarre à partir de Erev Rosh Hashanah. Ça démarre à partir de l'année où on est rentré en Eretz Israël.
Sans payer, congé.
Alors, pourquoi je voulais lire ce verset? Parce que la Gemara nous raconte que dès qu'arrivait l'année de la Shemitah, il y avait un regain de Limoud à Torah exceptionnel dans le peuple juif. Tout le monde se mettait à étudier, parce qu'il n'y avait rien à faire. Rien à faire, on ne travaille pas. La majorité des gens travaillaient dans quoi à l'époque? Ils n'étaient pas courtiers, ils travaillaient dans les champs. Alors, donc du coup, dès qu'arrivait une année dans laquelle on ne pouvait pas travailler dans les champs,
on allait étudier.
Tout le monde allait étudier. Et donc il y avait un regain de Limoud à Torah exceptionnel. La Gemara nous raconte des choses extraordinaires qui se passaient ces années-là. Bon. Je reviens à ma question que j'ai posée au début. Vous allez comprendre tout de suite pourquoi j'ai lu les versets suivants. Donc on reprend la page 311. Et on a dit qu'avant de donner cette mitzvah, qu'est-ce que Kadosh Baruch Hu a dit? C'est écrit « Vaïdaber Hachem El Moshe Behar Sinai Lemor ». Dieu a parlé à Moshe. Où il a parlé à Moshe Rabbeinu? Behar Sinai, dans le mont Sinai. Donc la question qu'on a posée, on a dit, mais pourquoi on nous parle du mont Sinai? D'accord? Alors déjà, il y a la Gemara qui explique, c'est ramené dans Rashi un peu plus tard. Si je ne me trompe pas, c'est dans la Gemara Gittin, mais bon, de mémoire, c'est dans la Gemara Gittin. La Gemara, elle nous raconte l'ordre chronologique qui se passe dans la parasha cette semaine. Je ne sais pas si vous avez déjà lu la traduction ou vous avez déjà étudié la parasha cette semaine. Mais dans la parasha cette semaine, on nous parle tout d'abord de la 7e année. Après, on nous parle d'une personne qui vend un bien. Et on nous dit que quand il vend un bien, la 7e année, le bien doit retourner, en tout cas la terre doit retourner à son propriétaire initial, pour permettre à tous les terrains de revenir à la tribu à laquelle ils appartenaient. Après, la Torah nous parle de l'emprunt avec ribit. Vous savez, le fameux ribit, le ribit, l'emprunt à intérêt. Après, la Torah nous parle d'une personne qui se vend. Ça, c'est tout ça dans la parasha cette semaine, hein, au début, d'une personne qui se vend. D'accord? Et après, la Torah nous parle d'un cas d'une personne qui se vend à un non-juif. Alors, la Gemara Gittin pose la question, elle dit, comment ça se fait que la Torah nous donne ces événements dans cet ordre-là? Elle dit, parce qu'en vérité, la Torah nous explique l'ordre, comment les événements se passent. Tout d'abord, la Torah te dit, fais attention de ne pas travailler à la 7e année. Maintenant, on sait comment c'est dur. C'est la parnassa. Alors, peut-être une personne va craquer. Et il va travailler la 7e année. D'accord? Il va travailler la 7e année. Alors qu'est-ce qu'on lui dit? On lui dit, tu vas travailler la 7e année, on va passer à l'étape 2 maintenant. Tu vas commencer à devoir vendre tes biens. Bon, mais il n'a toujours pas compris le message. Il a dit, bon, tu n'as pas compris le message, alors tu vas commencer à vendre pas seulement tes biens, tu vas vendre ta maison. Et on va se poser la question, comment ta maison qui appartenait à la tribu de Reuven, par exemple, reviendra à la tribu de Reuven au bout de la Shemitah. Après, tu n'as toujours pas compris. T'as toujours pas compris. Alors tu vas devoir emprunter, et avec intérêt. T'as pas le choix. Tu prends ce que tu trouves. Il emprunte avec intérêt, ça veut dire... C'est-à-dire tu vas emprunter, grave, avec beaucoup d'intérêt, t'auras pas le choix. C'est tout ce que tu vas trouver pour vivre. Ensuite, on va avancer encore plus loin. Tu n'as toujours pas compris le message. Tu vas finir par te vendre, mais un juif. Tu vas devoir te vendre pour subvenir à tes besoins. Te vendre tes services. Dire voilà, j'ai besoin d'un homme de ménage, je suis là, je travaille toute la journée, ou même la nuit, je peux être là. Et après, à la fin, nous dit la Torah, si vraiment t'as pas compris, alors finalement, pour essayer de te faire comprendre, tu vas devoir te vendre à un goy. C'est pour ça qu'Agmara explique ça, l'ordre qui est suivi dans la parasha cette semaine. Alors maintenant, pourquoi la Torah nous dit à propos de cette mitzvah, Behar Sinai? Pourquoi on nous dit que cette mitzvah était donnée sur le mont Sinai? Alors on va lire ensemble Rashi. La question de Rashi, donc le premier Rashi, hein, comme d'habitude, très concis dans les questions, Des fois, Rashi ne pose même pas la question. C'est à nous de comprendre qu'il avait une question, mais là, Rashi pose la question, puisque c'est comme ça que c'est écrit dans Torah de Kohanim, dans le Midrash par excellence sur Vaikra. Rashi nous dit, Ma'inyan, Shemitah et Tzel Arsinaï. Quel rapport entre la Shemitah et le Mont Sinaï? Sous-entendu, pourquoi, dès que tu me parles de la mitzvah de la Shemitah, tu me dis que cette mitzvah t'est donnée sur le Mont Sinaï. Mais toutes les mitzvahs ont été données au Mont Sinaï. Va le kol à mitzvah, t'es bromis Sinaï. Mais toutes les mitzvahs ont été données à Moshe Rabbeinu au Mont Sinaï. D'accord? Alors, nous dit Rashi, et là seulement, pour te dire la chose suivante. Ma Shemitah, de la même manière que la Shemitah, Nehemru, ont été dit, Klalotea ou Fratotea, Vedikdukea, Misinaï, de la même manière qu'à propos de la mitzvah de la Shemitah. La Torah nous a donné la généralité de la mitzvah, les règles générales. La Torah nous a donné les détails. Et la Torah nous a donné même les Dikdukim, ça veut dire les nuances. Comme on le voit, c'est pour ça que j'ai lu seulement quelques versets. On voit tout de suite que la Torah a expliqué en détail cette mitzvah. Que jusqu'aux nuances, elle est partie réfléchir qu'est-ce qui va se passer avec ce qui a poussé de manière sauvage. C'est-à-dire que la Torah est partie chercher tous les détails. Alors j'aurais pu penser que seulement les mitzvot sur lesquels la Torah m'a donné explicitement les détails, sur cela, je vais bien comprendre que ces détails-là, je les accepte. Mais les mitzvot dans lesquels la Torah nous a pas donné les détails. Par exemple, le Shabbat. Est-ce que la Torah nous a écrit explicitement les détails du Shabbat? Non. La Torah nous a dit, le Shabbat, vous travaillez pas. Au plus, elle nous a dit, n'allumez pas de feu le Shabbat. D'où je sais les 39 travaux. C'est écrit dans la Torah? C'est pas écrit. Donc les pratim, les détails de la mitzvah, de cette mitzvah du Shabbat par exemple, n'ont pas été écrits. Alors, on aurait pu avoir des gens qui auraient fait le calcul suivant. Qui auraient dit, uniquement les mitzvot que la Torah a dit explicitement, les généralités, les détails et les nuances, ça je viens d'accepter que la Torah les a donnés. Mais sinon, la Torah me laisse libre choix de choisir les détails. La Torah me donne, en général, elle me donne la généralité du Shabbat. Enfin, elle me dit, tu travailles pas le Shabbat. Peut-être que c'est à moi de décider qu'est-ce que j'appelle un travail. Il y a beaucoup de gens qui pensent comme ça. Ils disent, attends, c'est à moi de décider ce que j'appelle un travail. Ça, pour moi, c'est pas un travail. Viens, nous explique Rashi, qu'est-ce que nous apprend ce pasouk-là? Pourquoi on a dit Behar Sinai pour te dire, regarde, de la même manière que la mitzvah de la Shemitah, tu vois clairement, c'est écrit, les détails, les nuances, tout a été écrit. Av kulan nehemru klaloten vedikduken misinai. Pourquoi on t'a rajouté le mot Behar Sinai sur le mont Sinai pour te dire que sache qu'en vérité, toutes les mitzvot ont été données comme ça. Avec les détails, les nuances, tout a été donné comme ça. Seulement, Akadosh Baruch Hu a donné la mission aux Chachamim pour découvrir ce que la Torah avait déjà dit. Mais les Chachamim font uniquement que découvrir ce qui avait déjà été dit. Bon.
Mais pourquoi découvrir? Parce qu'on les sait. Ils ont été donnés, donc.
Oui, mais ils n'ont pas été écrits explicitement. Mais après. Oui. Donc, il faut les trans. Donc, ça veut dire qu'on doit les étudier.
Donc, c'est pas les Chachamim qui les découvrent.
Par définition, c'est comme dans un contrat. Ce qui est écrit est écrit. Ce qui n'est pas écrit, il faut aller chercher qu'est-ce qu'ils voulaient dire.
Ça, c'était pas écrit non plus.
Ah oui.
Ça c'était écrit.
La Shemitah, c'était écrit. On l'a vu, j'ai lu que quelques versets. Hein. La Shemitah, la Torah nous dit très clairement les dinim de la Shemitah.
On l'a lu dans la Torah.
Là. On vient de le lire, soit. Oui. D'accord. Bon. Ah maintenant, ok. Donc on a compris ici ce qu'est expliqué Rashi. Mais moi, je voudrais m'arrêter un peu plus dessus. D'accord. Comment ça se fait? Le Rabbi pose la question suivante. Une question qui est très simple. Il dit, non, avec plaisir, il y a une question.
Non, il n'y a pas de problème.
D'accord.
Mais moi, j'ai une question.
Parce que avant hier, j'ai dit où est Charlie?
Il n'y a pas de question.
C'était la bonne question.
Il n'y avait pas de question.
Il n'y a pas de question. Donc c'est bien.
Mais pourquoi c'est la Shemitah?
Ah, très bonne question. Écoutez, répétez votre question. Allez, Bechavad, allez-y. Répétez la question.
C'est la Shemitah et le Yovel qui sont donnés là. Puisque tout a été donné sur la.
Très bien. Donc je vais expliquer la question de M. Bismuth. Finalement, quelle était la réponse de Rashi? Qui est la réponse du Torah de Kohanim, du Midrash. Rashi a donné une réponse très simple. Il a dit, quel rapport entre la Shemitah et le Mont Sinaï? Quel rapport entre la Shemitah et le Mont Sinaï? Pour te dire, de la même manière que la mitzvah de la Shemitah, tu as vu clairement que tous les détails ont été donnés au Mont Sinaï, de la même manière, toutes les autres mitzvot ont été données au Mont Sinaï. D'accord? Avec les détails. Maintenant, il y a la question de M. Bismuth, qui est une question qui est très forte. Comment ça se fait que pour nous apprendre ce principe, puisque tu es en train de me dire que toutes les mitzvot ont été données avec tous leurs détails au Mont Sinaï. Sauf que, la Torah, pour une raison qu'on ignore, a décidé que la mitzvah modèle qui va nous montrer que toutes les mitzvot en vérité sont comme elle, c'est la Shemitah. Pourquoi la Torah a choisi la Shemitah? Pourquoi elle n'a pas choisi une autre mitzvah? Pourquoi elle n'a pas choisi les Tfilin? Pourquoi elle n'a pas choisi le Shabbat?
Donc les douchines,
c'est quand
ça touche ce qui est dur.
Pourquoi la Torah choisit la Shemitah? Qu'on a la question. Très bonne question.
Une année sabbatique pour étudier.
J'ai compris. Mais de toutes les façons, ça veut dire comme ça. La Torah veut nous apprendre ici une généralité. Pourquoi nous rajoute le mot Behar Sinai? Parce que la Torah veut nous faire passer un message. Elle veut nous dire, sachez qu'en vérité, toutes les mitzvot sont comme ça. Vous le voyez pas, mais en vérité, toutes les mitzvot ont été données exactement comme celle-là. Donc c'est une mitzvah qu'on va appeler mitzvah modèle. C'est un modèle, c'est une mitzvah type. Pourquoi on a choisi comme mitzvah type la mitzvah de la Shemitah?
Il faut avoir une émouna importante, il faut avoir une émouna énorme.
On n'a pas donné la tzaka par exemple, la tzaka.
C'est plus facile à faire. La Shemitah c'est la plus dure. La Shemitah
tu prends un an, ensuite l'année d'après tu replantes, donc tu prends encore rien.
C'est deux ans. Mais la Torah nous promet, elle nous dit t'inquiète pas, il y aura de quoi. D'abord, il faut savoir que la Gemara. Je voudrais rajouter un détail important.
Oui, mais
Dieu, il dit, dans la parachute de cette semaine. Regardez. Attendez. Ça, ce verset, on l'avait étudié il y a 2 ans, quand on était encore de l'autre côté. Prenez la page 313. Je vais vous lire un verset. Après, je vais revenir dessus. Hein. Vous verrez comment la Torah, sur la Shemitah, elle a pensé à tous les détails. Page 313, Pasukraf. Pasukut tête. Allez, on va prendre depuis le Shlishi. Venatna haaretz piria. Donc Dieu nous donne la bracha, il dit la terre donnera son fruit, va achaltem la sova, vous mangerez à votre faim, d'accord, vishaftem la vetachalea, et vous serez donc sûr, serein, sans problème, aléa sur votre terre. Vechi tamru. Écoutez bien, et si vous allez dire, c'est-à-dire que la Torah a prévu la question qu'on va poser. Ma nochal bashana shevit. Qu'est-ce qu'on mange la 7e année? Ah, la Torah a pensé, c'est rare hein, que la Torah pense à nos questions. Hein? On n'a pas vu que la Torah a dit sur le Shabbat, et si vous allez dire comment je vais gagner ma parnassa si je travaille pas le Shabbat. La Torah pose pas cette question, c'est pas écrit. Attendez.
C'est pas la même Shabbat.
Si vous allez dire, Manochal Bashana Shivit, qu'est-ce qu'on va manger la 7e année? Hen l'onizra. On n'a pas semé. Donc si on n'a pas semé, d'accord, cause à effet, s'il n'y a pas la cause, il n'y aura pas l'effet. Véloné, ça fait tes voix, t'es nous. Si on n'a pas semé, on ne pourra pas récolter. Alors qu'est-ce qu'on va manger? Je veux bien croire en Dieu, mais qu'est-ce qu'on va manger? Dieu, il répond, il dit, Vetiviti et Bichati Lachem Bashana Shishit. Je vais vous donner une bracha, la 6e année. Et vous allez voir que ce que vous allez récolter la 6e année, Vesat et voix, l'Ishloch Hashanim, vous aurez assez la 6e année pour 3 ans. Donc attendez, pourquoi je vous dis ça?
Ça veut dire
que quand la 7e année arrive, d'accord, c'est pas de la Emouna, il y a de la récolte dans les granges. Mais il y a de la récolte dans les granges.
Mais si tu récoltes une année, c'est pas compris. Elle est belle.
Ouais, mais c'est véridique. Imagine-toi qui récolte 20 000 euros par année. Attends, deux secondes.
Je répète.
Non, mais j'ai pas compris. Il a déjà la canne dans la grange.
Ça marchait pas systématiquement.
Mais non. D'habitude, il a 20 000 par année. Dieu lui dit, t'inquiète pas, cette année, t'auras 60 000. Donc il arrive à la fin de l'année, il lui reste 40 000. D'accord. Ah, il y a les boules, mais c'est pas qu'ils ont des mounas. Il n'y a pas un problème des mounas.
Ce phénomène-là, c'est pas pour tout le monde, ceux qui n'avaient pas eu la mouna départ. Ceux qui étaient, je m'en fiche, ça marchait pas.
Oui, il fallait avoir la mouna. C'est qu'il y a la mouna. Bon. Alors, je reviens. Toujours.
Triple récolte.
Attendez, mais est-ce que vous avez vu le verset? Dieu, il dit, Veti vitiat birchati lachem. Je vais ordonner la bracha. Dieu, il leur donne une bracha.
Ça s'est jamais démenti.
À l'époque du Betamigdash, non.
Mais si ça marche pour les grains. Peut-être que Kadosh Baroukh Hou donne les tripes la 7e année, mais cette 7e année aurait été mauvaise. Peut-être qu'il donne 3 fois quelque chose qui n'est pas.
Ah, moi je sais pas, non, moi je. Excuse-moi. Il n'a pas besoin de carotter, Dieu, il n'est pas vrai. Pourquoi?
Les juifs n'ont pas fait la Smita si c'était si simple. Si Kadosh Baroukh Hou avait donné la 7e année 3 fois.
Mais t'as répondu.
Le gain, la patte, le
gain. Bien sûr. Mais tout comme ça, on est humain.
C'est dur de laisser dormir une affaire. Tu laisses dormir ton affaire.
Tu sais
que tu plantes, ça va venir.
C'est plus fort que toi.
Bon, alors.
Attends,
oui. Une question, oui. Mais je veux revenir à mon rachis. Bon, vous m'avez pas laissé avec mon rachis.
Tu considères que t'as une année
pour les trois années qui sont suivies, ça marche pour le grain, les céréales, etc. Mais pour les fruits et légumes,
oui.
Tu ne peux pas les conserver.
Oui.
Donc comment concevoir que tu as eu ta récolte?
Ça veut dire que tu auras tellement de récolte que tu vas la revendre et tu vas garder l'argent.
Si tu as l'argent mais tu n'as pas moyen d'acheter, tu vas manger.
Non, on va acheter, on a importé.
Importé, les conditions d'import étaient pas
si. Si, on avait, on a importé à côté. On a importé, on a importé.
La route des épices.
En tout cas, il n'y a pas eu de problème. On n'a jamais vu dans l'histoire que les pneus Israël, à cause de la Shemitah, ont mal vécu. Jamais. D'accord ? Fait-il, en fait ?
En fait, le temps.
Non, mais je parle, même à l'époque du Beth Amikdash, ils l'ont fait. C'est les 70 dernières années que les Bnei Israël sont relâchés. Mais pendant 400 ans, ils l'ont fait, c'est très bien passé.
Comment on fait?
C'est pas que votre Amikdash. D'accord. Oui. À la fin du Beth Amikdash, comment on appelle ça? À la fin du premier Beth Amikdash, on a commencé déjà
à relâcher. À la fin du premier Beth Amikdash.
À la fin du premier déjà.
Et après.
Tu as raconté votre Pirkei Avot, dans le cinquième chapitre du Pirkei Avot. On nous raconte exactement ce qui se passe. Oui. Oui.
Parce que les arbres, de toute façon, ça va pousser.
Oui.
Donc tous ces fruits-là qui vont pousser,
on peut les manger.
Tout le monde peut les manger.
Mais on peut laisser les oiseaux.
On peut les manger, mais on n'a pas le droit. On n'a pas le droit de se les approprier, de les engranger.
Il laissait les champs ouverts.
Ça veut dire, j'ai le droit de venir, me servir, manger. Il laissait les champs ouverts, exactement. Les champs étaient ouverts.
Ça sert à quoi ?
On ne peut pas en faire un commerce.
Ça sert à ce que tout le monde puisse profiter.
C'est ouvert.
C'est gratuit, quoi.
Oui, c'est gratuit. C'est pas à moi. J'ai pas travaillé pour ça. C'est pas à moi. Bon, messieurs. Alors, je reviens à ma question que j'ai posée. Allez, messieurs. Comme ça, on finit avec ça. Pourquoi l'exemple? Pourquoi la mitzvah type? Allez, messieurs. Bon, il me faut 5 minutes, là, s'il vous plaît. Il faut pas me couper. S'il vous plaît. Voilà. Je reprends la question. Comment ça se fait que la mitzvah type qui a été choisie par la Torah pour nous apprendre la généralité, que partout dans la Torah où il y a écrit même une mitzvah classique, sans détails, sans nuances, en vérité, les nuances et les détails ont déjà été données par Akadosh Baruch Hu à Moshe Rabbeinu au Mont Sinaï. Pourquoi la mitzvah qui a été choisie pour nous apprendre ce message est la mitzvah de la Shemitah? Alors, ce qui explique ici le commentaire du Rabbi, il dit c'est très simple. Il dit parce que quand on réfléchit, la mitzvah de la Shemitah, non seulement c'est une mitzvah difficile, c'est peut-être une mitzvah difficile, mais c'est plus que ça. La mitzvah de la Shemitah, c'est une mitzvah qui représente toutes les autres mitzvot. Pourquoi? Ce qu'il y a de particulier dans la mitzvah de la Shemitah, c'est que, d'un côté, c'est une mitzvah qui a une kedusha extraordinaire. On l'a lu ensemble. On a dit, Veshavta ha'aret, Shabbat, Lachem. C'est-à-dire que c'est une année dans laquelle la terre se repose pour Dieu. À un endroit, on a dit Shabbat, Shabbaton. C'est un terme en général qu'on dit que pour Yom Kippour. Ça veut dire que d'un côté, c'est une année qui a une kiddusha extraordinaire. Qui a une kiddusha extraordinaire à tel point qu'on utilise des termes qu'on utilise normalement que pour Yom Kippour. Bon. Mais d'un autre côté, pendant cette année de Shemitah, c'est une année qui n'est pas spécialement kadosh. Pourquoi? Parce que pendant cette année, je vais continuer à faire mes choses profanes comme je fais d'habitude. Je n'ai pas d'obligation d'aller étudier la Torah. Si je veux, je vais étudier la Torah. Mais c'est une année que j'ai pas d'obligation de faire. C'est même pas comme un Chol HaMoed. Un Chol HaMoed, par exemple, c'est une demi-fête. Par exemple, la Torah aurait pu faire que l'année de la Shemitah, on la déclare demi-fête. Demi-fête. Enfin, c'est-à-dire, on a le droit de travailler, mais on n'a pas vraiment le droit de travailler. On n'a pas le droit de tout faire. Demi-fête. Or, on voit que la mitzvah de la Shemitah, il y a un certain paradoxe. Je répète. D'un côté, qu'est-ce qu'on voit? D'un côté, on voit que la Shemitah, elle a une kedusha extraordinaire. Une kedusha qu'on retrouve seulement dans le jour du Yom Kippour. D'un autre côté, qu'est-ce qu'on voit? On voit que la Shemitah, finalement, c'est une année comme les autres. Sauf que je travaille pas, d'accord? Mais finalement, c'est une année qui est profane. C'est une année dans laquelle je vais continuer à faire tout ce que je fais d'habitude. D'accord? J'ai le droit d'utiliser l'électricité, j'ai le droit de faire tout ce que je fais comme d'habitude. Donc on a un certain paradoxe qu'on retrouve dans la Shemitah. Ce principe-là, ce paradoxe-là, on le retrouve en vérité dans toutes les autres mitzvot. Comment on retrouve ça dans toutes les autres mitzvot? Très simple. D'un côté, on nous explique qu'une personne, lorsqu'il fait une mitzvah, la mitzvah va élever l'âme d'une manière extraordinaire. Que l'âme d'un juif, quand il fait une mitzvah, elle arrive très très haute. D'un autre côté, on voit que quand on fait une mitzvah, on nous demande de faire attention à des détails. Je vais expliquer ce que je veux dire. Par exemple, on me demande de mettre les tefilines. Quand on voit ce qu'on nous explique sur la mitzvah des tefilines, la soumission du cœur à Dieu, la soumission de la tête à Dieu, etc. Extraordinaire. D'accord. Pourtant, quand je mets les tefilines, on me dit attention. Il faut faire attention que la lanière ne vienne pas sur l'autre, le nombre de fois où tu fais un tour, la couleur que doit avoir la lanière, des détails. On a presque envie de dire, mais qui fait attention à ces détails-là quand on est en train de faire quelque chose de tellement important? Tu fais attention, c'est une babiole, c'est rien du tout ça. Et bien on voit que dans toutes les mitzvot, on a ce paradoxe. D'un côté, la mitzvah a un message qui est très fort, Et d'un autre côté, la Torah te dit, en parallèle, je veux que tu fasses attention jusqu'au dernier petit détail profane, entre guillemets, de la mitzvah. La couleur, le nombre de tours, etc. C'est un petit peu comme la Shemitah. D'un côté, c'est une mitzvah qui a une grande ktusha, et d'un autre côté, c'est une mitzvah qui va rester un peu profane, parce qu'on reste dans la vie de tous les jours. Dans toutes les mitzvot, on retrouve ce concept. D'un côté, il y a un concept extraordinaire, un concept très fort. D'un autre côté, comme on a dit ici, d'un autre côté, la Torah nous demande de faire attention à l'aspect profane, entre guillemets, de la mitzvah, c'est-à-dire à faire attention à chaque petit détail de la mitzvah. Alors, la question qu'on se pose, et c'est la question de Rashi, et on va expliquer le Rashi qu'on vient de dire selon le Midrash. La question que Rashi se pose, il dit, mais comment on peut faire pour allier ces deux choses-là? Comment, d'un côté, dans la vie, on a deux catégories de gens. Soit vous avez des gens qui sont complètement, qui sont la tête dans les nuages, alors toujours ils vont chercher le sacré, et vous avez des gens qui sont toujours pragmatiques, qui sont toujours concrets. Et en général, ces deux catégories de gens ne peuvent pas se voir. On est d'accord? C'est vrai, ils ne peuvent pas se voir. Les gens qui sont concrets, ils n'arrivent pas à supporter les mystiques, et les gens qui sont mystiques n'arrivent pas à supporter les gens qui sont concrets. Donc c'est un paradoxe. Et là, dans la Shemitah, par exemple, on voit qu'il y a ces deux côtés. D'un côté, il y a un aspect mystique, on te dit la Shemitah, c'est la Kdusha, et d'un autre côté, il y a un aspect concret, on dit c'est pas grave, écoute, tu continues à faire comme si de rien n'était. Toutes les mitzvot sont comme ça. Il y a toujours un paradoxe, il y a toujours une contradiction, un conflit entre l'aspect mystique et l'aspect concret. Alors comment on fait pour lier ces deux aspects? La réponse est très simple. La réponse est Behar Sinai, la montagne. En quoi la montagne répond à ces questions? C'est que d'un côté, la Torah, on nous dit que le mont Sinai s'appelle une montagne. Qui dit montagne dit que c'est pas une colline, c'est une montagne. Ça veut dire qu'une montagne, c'est une certaine rachéoute, c'est une certaine importance. D'un autre côté, on sait très bien, on connaît bien ce Midrash qui nous dit que le mont Sinai a été choisi parmi toutes les montagnes. Pourquoi? Parce que c'était la montagne la plus basse. Est-ce que vous voyez le paradoxe là? Le même paradoxe. D'un côté, je dis, c'est une montagne. Voilà, c'est une montagne, ça veut dire qu'il y a un certain orgueil. D'un côté, je dis, non, mais c'est la plus petite des montagnes. Pourquoi t'as pris la plus petite des montagnes? Pourquoi tu prends pas une colline? C'est le même paradoxe. C'est pour nous montrer que déjà, depuis le mont Sinaï, Akadosh Baruch Hu nous a donné le koach, il nous a donné la force d'être capable de faire deux choses contradictoires, les deux choses en même temps. Et c'est vraiment, on retrouve ça chez le Ham Israël. Comment d'un côté, on est une religion complètement mystique, dans laquelle on va chercher des choses complètement mystiques, et d'un autre côté, on est très concret. Et on avait fait un cours une fois sur ça, hein. On avait expliqué que c'est pour ça que les nations ont beaucoup de mal à nous cerner. Énormément de mal à nous cerner. C'est-à-dire autant le Shabbat, ou quand on fait une mitzvah, on est entièrement mystique, et autant dans la vie de tous les jours, dans les affaires, on est très concret. Pourquoi ils ont du mal à nous cerner? Parce que, en général, quand on côtoie des gens, ils sont soit l'un, soit l'autre. Soit vous avez des gens qui sont complètement mystiques, c'est-à-dire bon, ça va être des sectes, etc. et tout. Ou soit vous avez des gens qui sont concrets. C'est très rare d'avoir des gens qui arrivent à faire les deux en même temps. Et c'est ça la force de la Shemitah. C'est une année qui est en même temps, comme on a dit, Shabbat Shabbaton, une grande doucha, et en même temps d'un autre côté, c'est une mitzvah c'est une année dans laquelle on va travailler pas dans la terre, mais on va faire toutes les choses comme on a l'habitude de les faire. C'est pour nous montrer que Behar Sinai, le mont Sinai nous a donné la possibilité de le faire. Alors pourquoi le mont Sinai? Je réponds à la question que j'ai posée. La Gemara explique que même un Talmid Chacham, un érudit à qui on demande la anava, l'humilité, on lui demande d'avoir ce qu'on appelle le Shminich Bishminich El Gava, d'avoir un huitième d'un huitième de l'orgueil. Ça fait combien un huitième d'un huitième?
64.
D'accord. Alors, ça veut dire quoi? C'est pour ça que la Torah nous dit que le mont Sinai, c'était la plus petite des montagnes. D'accord? Pourquoi la plus petite des montagnes? Pourquoi on n'a pas pris une colline? C'est pour nous montrer que d'un côté, la Torah nous demande l'humilité. L'humilité à Kadosh Baruch Hu, l'humilité envers les hommes. Mais d'un autre côté, la Torah nous demande d'avoir un certain orgueil. Alors, un 64e, c'est pas beaucoup, mais un petit peu d'orgueil. Parce que les gens qui sont complètement effacés, ils avancent pas. Et vous voyez, encore une fois, on retrouve ce même paradoxe. D'un côté, on te demande de t'effacer devant un Kadosh Baruch Hu, et d'un autre côté, on nous demande d'avoir une certaine tenue, et d'avoir envie d'avancer. De pas s'effacer. C'est exactement le message de la Shemitah. D'un côté, c'est Kadosh, et d'un autre côté, on continue à faire comme si. D'un autre côté, c'est une année qui est profane. Qui c'est qui nous donne le kohar de faire ça, la force de faire ça? C'est le Har Sinai, c'est le mont Sinai qui, en même temps, est une montagne, et en même temps, est la plus petite des montagnes. Et c'est pour ça qu'on a choisi la mitzvah de la Shemitah pour nous apprendre ce principe-là. Oui. Le conflit entre les mystiques et le conflit. C'est vrai.
Très difficile.
Rédis à l'Israël, bravo.
Amen.
Amen. Amen. Amen. Amen. Damiran Beralma.
Amen.
Amen. Amen.